Chloé Danillon, donc vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, chargée de la protection de l'enfance, et on vient de, dans une première partie d'expliquer, vous venez d'expliquer plus précisément ce que c'est. Mais quand on est conseiller départemental, on est élu sur un territoire qui s'appelle un canton, le vôtre s'appelle de la Malpère à la Montagne Noire. La Montagne Noire, tous les Audois connaissent bien, la Malpère peut-être un peu moins. Alors qu'est-ce que c'est la Malpère?
La Malpère, on est sur les communes qui vont, en tout cas moi sur mon canton d'Arzès à Montréal. Alors on a un canton aussi qui traverse un peu le Cabardès et qui monte jusqu'à la montagne. C'est vraiment un canton qui traverse le département. Voilà, on part Montréal et on monte jusqu'à Sessac, La Combe, La Prade.
Oui, oui, oui. Alors, encore une fois, la Montagne Noire, et c'est bien, c'est de la vraie montagne, on va y revenir. Oui. La Malpère, c'est la plaine, tout près de Carcassonne, finalement.
Tout à fait, oui, oui. On est sur une plaine avec des villages qui sont proches de Carcassonne, de cette couronne carcassonnaise. On a aussi la partie Montréal qui est un peu plus proche de Bram, et on a une histoire en tout cas viticole qui est encore présente avec des vignes, avec de nombreux viticulteurs, des agriculteurs, et on a aussi du tourisme qui peut être, on est sur un canton qui développe pas mal le tourisme.
Oui, et alors là, donc, bon, au point de vue viticole, vous l'avez mentionné, il faut quand même dire qu'il y a un cru Malpère, hein, donc c'est pas n'importe quoi non plus, donc il y a un cru de Malpère qui existe. Il y a d'autres types d'agriculture sur cette zone?
On a du maraîchage aussi qui se fait.
Parce que c'est pas encore le Lauragais, on n'est pas encore dans le blé.
Non, on n'est pas sur des grands champs comme ça. On a du maraîchage, on a, je pense à des noisettes aussi par exemple. Voilà, on est plutôt, mais on est majoritairement quand même sur de la viticulture.
Oui. Et alors.
Et puis quand on monte sur la montagne, on part un peu plus sur du bovin aussi.
Aussi.
Sur de l'élevage, ouais.
Oui, oui, il y a, donc dans la Montagne Noire, il y en a beaucoup d'élevage bovin.
On en a quelques-uns, oui.
Enfin, ça persiste ou ça a été réintroduit? Parce qu'on sait que parfois l'élevage avait périclité et il a parfois été réintroduit.
Tout à fait. Ça persiste. On a des familles qui sont là depuis plusieurs générations et qui continuent à travailler. On a aussi les laitiers, hein, je pense. Voilà.
Oui, il n'y a pas que des moutons.
Voilà, c'est quelque chose qui est aussi présent. Et puis après, on a aussi des jeunes agriculteurs qui s'installent. Alors, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que quand même, ils sont sur une double activité. Alors, ils essaient de développer à côté le tourisme, où il y a aussi des questions de champs photovoltaïques. Le but, c'est de se dire que aujourd'hui, je pense que s'installer, ça demande beaucoup de courage, et souvent, ils ont besoin d'une activité un peu à côté pour pouvoir vivre de leur métier.
Oui. Et à ce sujet, le département aide un peu. Je crois qu'Alain Gignès, qui est responsable de l'agriculture chez vous, avait expliqué qu'il y a, même si c'est pas la vocation essentielle du département, il y a des aides quand même pour ces jeunes agriculteurs qui s'installent.
Oui, il y a vraiment une mobilisation de tous les acteurs. On a la Chambre d'agriculture aussi qui est très présente et qui accompagne.
C'est la vocation.
Tout à fait, voilà. Donc on accompagne les jeunes agriculteurs. Le département, on travaille aussi beaucoup sur les questions d'irrigation. On sait que ça va devenir compliqué sur les années à venir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important sur notre canton. Et puis on réfléchit aussi au circuit court, au manger local. On travaille sur comment les cantines, sur comment les enfants peuvent manger aussi des circuits courts. Et tout ça nous permet de soutenir l'agriculture locale.
Oui. Et alors donc, la montagne, vous avez évoqué, Chloé Danillon, donc l'élevage, alors les ovins, les vaches également, et les vaches laitières. Mais vous avez aussi prononcé le mot de photovoltaïque. Alors, il y a un certain nombre de polémiques qui ont lieu à l'heure actuelle sur ce secteur. Peut-être pas tellement dans le photovoltaïque, mais dans l'éolien. Alors, il y a beaucoup de fermes éoliennes dans cette région. Mais il semblerait maintenant qu'il y ait l'impression d'un ras-le-bol, d'une suffisance. Alors, dites-nous ce qu'il en est, Chloé Danillon.
C'est un sujet qui est très compliqué et qui, en plus, je trouve, au niveau législatif, nous aide pas à y voir clair, je vais dire. Mais c'est vrai qu'on a un sentiment d'une partie des habitants qui trouvent qu'il y a beaucoup d'éoliennes, que ça commence à avoir une pollution visuelle. Il y en a même qui parlent de pollution auditive, parce que ça peut faire du bruit quand on n'est pas loin. Et de l'autre côté, on a un climat qui change beaucoup, on a une planète qui ne va pas bien, et on a aussi un besoin de se tourner vers des énergies qui sont un peu plus propres. Et donc, de fait, l'éolienne est une solution qui paraît intéressante parce qu'en plus, d'autant plus sur la montagne, on est sur des lieux où on a de quoi, on a du vent à capter.
Il y a du vent, ouais, la matière première,
c'est ça. mais il n'empêche qu'il faut entendre ces deux idées qui se contrechoquent et essayer d'amener le plus intelligemment possible. Je crois surtout là où il faut être vigilant, et j'ai des cas d'exemples de poses d'éoliennes qui auraient pu venir perturber des activités, notamment agricoles. Ça, je pense que c'est quelque chose où il faut qu'on soit très vigilant, et il faut qu'on soit ferme sur le fait que ce n'est pas possible de venir poser des éoliennes qui vont perturber des bêtes, qui vont venir polluer des sources. Ça, c'est quelque chose où on est en tout cas vigilant. Mais je crois qu'on a aussi besoin d'une loi, parce qu'aujourd'hui, en tant que collectivité locale, on a peu de pouvoir pour dire oui ou non sur ces questions-là.
Oui, il y a des règlements qui s'appliquent, des règlements nationaux
qui s'appliquent. C'est ça. Donc je crois en tout cas que ça sera un des enjeux de notre Assemblée nationale pour les années à venir, de vraiment réfléchir à cette question de l'éolienne. Qui doit être menée, mais qui ne peut pas être menée sans oublier les territoires.
Mais alors, les maires, souvent des petites, d'ailleurs, des très petites communes, très souvent, sont très partagées, parce que, bien sûr, il y a cette gêne, mais il y a aussi un apport financier.
Et c'est,
donc, pour le budget de la commune, c'est pas rien.
Oui. C'est aussi un apport financier qui permet à des lieux très, très ruraux de quand même avoir des services. Donc, c'est tout ça qui est très ambivalent, et je pense que ça demande... beaucoup de cas par cas aussi, c'est un vrai travail de dossier de se dire en fonction de la situation, en fonction de la proposition, quel est le choix le plus pertinent.
Et alors vous disiez que pour un jeune agriculteur qui s'installe, très souvent, on essaie d'être polyvalent et notamment de faire du tourisme. Alors là, c'est quoi comme forme de tourisme qu'on peut faire dans la montagne noire ?
La montagne noire, on est vraiment sur un tourisme de pleine nature. On est sur des lieux grandioses qui sont de la randonnée. On peut faire du triathlon. On a des lieux qui se prêtent vraiment à profiter de la nature. Et on a de quoi faire des gîtes, de quoi faire de l'accueil. Et on a aussi, je pense, des choses à développer sur ce qu'on appelle le slow tourisme, qui est l'idée de prendre son temps et d'avoir un tourisme un peu plus écologique, en tout cas, mais dans le développement durable. Donc c'est vraiment ça qui peut être porté sur la montagne, mais sur tout le canton, de manière générale.
Et là, il y a des actions du comité du tourisme, du comité départemental du tourisme,
voilà.
Qui, bon, c'est plus votre ressort, mais...
un peu moins, en effet.
Alors, j'en reviens donc aux éoliennes, parce que c'est les énergies renouvelables, c'est les énergies, c'est la transition écologique. Je sais que votre présidente Hélène Sandranier est très attachée aussi à ce côté-là, quoi. Est-ce que le département, justement, prend des positions ou laisse faire? Parce que c'est délicat de dire, voilà, il faut y aller, il faut des éoliennes, mais la population n'en veut pas toujours, et on voit les clashs. Il y a eu une manifestation, je crois, récente à Fontiès-Cabardès, une manifestation structurée. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'en veulent pas vraiment, quoi. C'est une volonté assez forte exprimée.
Oui. Alors on a... Je crois qu'on est assez égalitaire dans les volontés entre ceux qui en veulent et ceux qui en veulent pas. Nous, département, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a aucun pouvoir de dire oui ou non. Donc, en tant qu'élus locaux, on va des fois dire qu'on n'est pas d'accord avec le projet et qu'on les défend, mais on n'a pas la capacité, on ne donne pas notre avis sur ces questions-là. Donc, c'est pour ça que je vous parlais aussi de changement législatif.
Oui, c'est ça. Le département n'a pas pouvoir de bloquer un projet, par exemple.
Bon. Tout à fait.
Voilà. Donc là, ça reste une situation...
Et puis je pense que c'est une situation qu'il va falloir réfléchir, même au niveau de la France, sur les années à venir.
Le problème...
Et c'est vrai que j'entends souvent des habitants me dire « Mais pourquoi on ne les met pas en bord d'autoroute plutôt que de venir, tout compte fait, gâcher notre belle montagne ?» Et donc tout ça, c'est vraiment la réflexion de comment on aménage le territoire de manière globale au niveau de la France.
Oui. Alors revenons un petit peu donc sur ce, redescendons un petit peu si je puis dire dans la plaine. Donc quand on est conseiller départemental donc d'un canton, alors c'est vrai que d'un côté on est élu, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Le pouvoir de décision il est au niveau des maires ou au niveau des entreprises. Justement dans votre rôle. Comment le ressentez-vous ? Ça doit être un rôle, parfois, où vous vous sentez un peu écartelé, non ?
Non, alors moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a un rôle un peu de mise en relation, ou d'être là pour donner le coup de pouce qui va permettre de venir aider un projet. On est des, en tout cas, moi, je suis une élue qui aime bien être sur le terrain et être proche des maires et proche des habitants, mais ça nous arrive de venir... Enfin, on voit en tout cas des projets qu'on a soutenus et qui se tiennent. On voit aussi qu'on est important. J'étais il y a peu au conseil d'administration de l'EHPAD de Montréal qui avait, comme beaucoup d'EHPAD, des difficultés financières. Mais avec le département, on a réussi à leur venir en aide sur la trésorerie. On a réussi à leur venir en aide sur l'investissement. Et on voit que c'est un établissement qui, dans les années à venir, va repartir, va pouvoir rééquilibrer ses comptes. Donc ça, c'est des choses qui sont portées par le département, qu'on a défendues au niveau de notre assemblée et qui montrent vraiment qu'on est sur un pouvoir d'agir.
Oui, c'est-à-dire que vous pouvez agir alors dans le conseil ou même parfois au-delà, parce que vous avez vos antennes, si je puis dire, à Carcassonne et au conseil départemental.
Oui, bah, c'est, bien sûr.
C'est ce rôle-là que vous pouvez
utiliser.
Tout à fait,
parce qu'on est un élu local, mais qui est membre d'une assemblée départementale avec un budget. Donc on a voilà, cette idée de comment on est porte-parole de notre canton sur le territoire. Je vous parlais de l'EHPAD de Montréal, mais c'est pareil aussi avec l'EHPAD de Sessac. Et on met 3 millions d'euros d'investissement pour reconstruire un nouvel EHPAD de Sessac, parce que celui qui est actuel n'est plus du tout en bon état, ni aux normes pour accueillir convenablement des personnes âgées. Mais on a vraiment aussi, c'est vrai, ce rôle d'entremetteur, parce qu'on voit peut-être un peu plus d'acteurs au niveau départemental et qu'on peut des fois aller taper à la porte de l'ARS pour dire « il y a besoin d'aide ». Aller voir la préfecture sur des dossiers, on
a
aussi ce
rôle-là. Un rôle de conseil qui est important.
Et puis on a aussi un rôle d'animateur entre maires, de dire mais t'es sur tel projet, va voir le maire d'à côté. Je l'ai vu la semaine dernière, lui aussi, il a un projet alors de City Stade, il a un projet de rénovation de route. Ça peut être intéressant de discuter ensemble. Vous pourriez peut-être voir des projets communs. Donc on est aussi sur ce rôle de lien.
Lien. Et puis d'aide financière, puisque vous avez cité quelques chiffres et quelques millions comme ça à la volée, Chloé Danillon. Rappelons que le département, c'est quand même de l'ordre de 500 millions au point de vue fonctionnement. Le budget annuel, donc c'est quand même pas rien. Merci en tout cas, on va marquer une deuxième pause. Merci Chloé Danillon pour ces éclaircissements, alors cette fois-ci sur votre canton, dont vous êtes l'élu, de la Malpère à la Montagne Noire. On se retrouve pour une troisième partie où on va évoquer alors, quelque chose d'assez différent. Vous êtes toujours, j'imagine, Chloé Danillon, membre du Parti Socialiste.
Oui.
Et vous avez été au MJS, aux Jeunes Socialistes, à une époque un peu plus glorieuse. On revient là-dessus dans une troisième partie.